soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied venu pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour remplir les poches de ces messieurs-là. Ce qu'on le pognon, cela viendront, car c'est pour eux qu'on rêve. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, veillez la votre peau. Car si vous voulez la guerre, payez la devoir.
Et voilà, c'est sur Canal Sud la chanson de Craon, chanson antimilitariste, s'il faut bien le préciser. Et nous sommes Action 115, toujours, au Dradec, parce que la guerre se prolonge et l'expo se prolonge aussi. Donc pendant tout le mois de mai, vous pouvez venir lire les textes qui sont affichés sur les murs de la galerie. Et puis en amener d'autres, et puis il y en a aussi sur la table. Et puis surtout nous écouter le vendredi de 19h30 à 20h sur la lecture de textes contre la guerre. Et on commence avec toi sur un texte de René Char, c'est ça ?
Oui. Tiré des feuillets d'hypnose, écrit en 1943-1944, et dédié à Albert Camus. Cette guerre se prolongera au-delà des armistices platoniques. L'implantation des concepts politiques se poursuivra contradictoirement dans les convulsions et sous le couvert d'une hypocrisie sûre de ses droits. Ne souriez pas. Écartez le scepticisme et la résignation, et préparez votre âme mortelle en vue d'affronter intramuros des démons glacés, analogues au génie microbien. Des êtres raisonnables perdent jusqu'à la notion de la durée probable de leur vie et leur équilibre quotidien lorsque l'instinct de conservation s'effondre en eux, sous les exigences de l'instinct de propriété. Ils deviennent hostiles aux frissons de l'atmosphère et se soumettent sans retenue aux instances du mensonge et du mal. C'est sous cette chute de grêle maléfique que s'effrite leur misérable condition.
poésie peut-être. Parce qu'on va faire la première partie comme ça. Je crois que tu avais sélectionné d'autres.
128.
128.
Le boulanger n'avait pas encore dégrafé les rideaux de fer de sa boutique que déjà le village était assiégé, bâillonné, hypnotisé, mis dans l'impossibilité de bouger. Deux compagnies de SS et un détachement de miliciens le tenaient sous la gueule de leurs mitrailleuses et de leurs mortiers. Alors commença l'épreuve. Les habitants furent jetés hors des maisons et sommés de se rassembler sur la place centrale. Les clés sur les portes, un vieux, dur d'oreille qui ne tenait pas compte assez vite de l'ordre, vit les quatre murs et le toit de sa grange voler en morceaux sous l'effet d'une bombe. Depuis 4 heures, j'étais réveillé. Marcel était venu à mon volet me chuchoter l'alerte. J'avais reconnu immédiatement l'inutilité d'essayer de franchir le cordon de surveillance et de gagner la campagne. Je changeai rapidement de logis. La maison inhabitée où je me réfugiais autorisait, à toute extrémité, une résistance armée efficace. Je pouvais suivre de la fenêtre, derrière les rideaux jaunis, les allées et venues nerveuses des occupants. Pas un des miens n'était présent au village. Cette pensée me rassura. À quelques kilomètres de là, ils suivraient mes consignes et resteraient tapis. Des coups me parvenaient, ponctués d'injures. Les SS avaient surpris un jeune garçon qui revenait de relever des collets. Sa frayeur le désigna à leur torture. Une voix se penchait, hurlante, sur le cœur tuméfié. « Où est-il ? Conduis-nous !» Suivi de silence. Et coups de pied et coups de crosse de pleuvoir. Une rage insensée s'empara de moi, chassa mon angoisse. Mes mains communiquaient à mon arme leur sueur crispée, exaltait sa puissance contenue. Je calculais que le malheureux se tairait encore 5 minutes, puis fatalement y parlerait. J'eus honte de souhaiter sa mort avant cette échéance. Alors, apparut, jaillissant de chaque rue, la marée des femmes, des enfants, des vieillards, se rendant au lieu de rassemblement, suivant un plan concerté. Ils se hâtaient sans hâte, ruisselant littéralement sur les SS, les paralysant en toute bonne foi. Le maçon fut laissé pour mort. Furieuse, la patrouille se fraya un chemin à travers la foule et porta ses pas plus loin. Avec une prudence infinie, maintenant, des yeux anxieux et bons regardaient dans ma direction, passés comme un rejet de lampe sur ma fenêtre. Je me découvris à moitié et un sourire se détacha de ma pâleur. Je tenais à ces êtres par mille fils confiants, dont pas un ne devait se rompre. J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice. René Char.
D'accord.
Oui, dans un texte qu'il a écrit en 1943-1944, alors qu'il était capitaine dans la résistance, et ça s'appelle Les Feuillets d'Hypnos.
D'accord. Alors, on continue nos lectures sur des textes qui parlent justement de cette guerre et de cette ambiance. Là, c'est Anne Morelli qui parle. Elle est historienne et professeure à l'Université libre de Bruxelles. On est dans une situation où il n'y a pas de place pour les divergences. Je suis sidérée de voir à l'université des affiches « Sauver l'Ukraine »,« Poutine assassin » et d'autres messages de ce type. C'est la première fois que je vois des étudiants se positionner comme ça dans un conflit militaire. Il faut souligner que l'Ukraine a des armes et ces armes ne sont pas arrivées toutes seules. On arme l'Ukraine depuis 2014 et le gouvernement lance régulièrement ses armes contre les indisciplinés des territoires qu'on appelle pro-russes. Lorsqu'en Yougoslavie, des territoires comme la Croatie et le Kosovo ont fait sécession. On a applaudi. Les pays occidentaux les ont directement soutenus. Par exemple, l'Allemagne ou le Vatican ont tout de suite reconnu l'indépendance de la Croatie alors qu'on était occupé à dépecer un pays qui jusque-là était uni. Mais quand c'est l'inverse, comme c'est le cas ici, avec notre ennemi qui soutient une autonomie, là on dit que c'est scandaleux. On a deux poids deux mesures flagrants. Imaginez demain, les Basques, les Catalans ou les Flamands qui voudraient leur autonomie. Est-ce qu'on applaudirait ? La diabolisation de l'ennemi, c'est un principe de base de la propagande de guerre, assez continue. Napoléon était fou, le Kaiser, Saddam Hussein, Milosevic, Kadhafi l'étaient aussi, et Poutine est fou, bien entendu. Nous, nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui sont tous sains d'esprit, tandis que de l'autre côté, ce sont tous des fous furieux. C'est élémentaire comme principe de propagande de guerre. Pourtant, la question des néo-nazis est bien réelle. Le bataillon Azov, ce n'est pas des enfants de cœur, ce sont des néo-nazis. Il faut aussi rappeler qu'une partie des Ukrainiens se sont solidarisés de l'Allemagne nazie. Il y a une partie de la population qui a combattu les nazis, mais une partie qui a soutenu le génocide des Juifs et toutes les atrocités. Quand Poutine dit « on va lutter contre les fascistes ukrainiens », la Russie sait de quoi elle parle. Là aussi, la propagande occidentale a fait oublier que c'est l'ex-URSS qui a le plus collaboré à la défaite de l'Allemagne nazie. C'est tout à fait évident pour la population belge en 1945. Mais depuis, la propagande a fait ses effets à travers notamment les productions d'Hollywood, des films comme « Il faut sauver le soldat Ryan » et une multitude d'autres. Si on demande est-ce que les gens du Donbass n'ont pas le droit, comme ceux du Kosovo, d'avoir leur indépendance, on est suspecté d'être un agent de Poutine. Non, j'aime pas du tout Poutine, mais j'ai pas envie d'une information qui soit partisane, pas envie d'une information qui est finalement celle de l'OTAN. Que faire alors ? J'ai été plusieurs fois invité sur des chaînes de télévision, et quand j'ai demandé à ce qu'on projette une carte de 1989 en Europe pour montrer qui avance ses pions vers l'autre. Eh bien, curieusement, on m'a dit que c'était finalement pas nécessaire que j'intervienne. Je pense que dans une situation de forte propagande comme maintenant, notre voix est inaudible. Il faut pourtant voir qui encercle qui. Ce sont les troupes de l'OTAN qui encerclent la Russie et pas l'inverse. Récemment, pour une manifestation contre la guerre, il n'y avait que quelques personnes. Depuis la guerre en Irak jusqu'à maintenant, il y a eu un certain découragement du mouvement pacifiste. Quand on voit les énormes manifestations qu'il y a eu, par exemple, en Grande-Bretagne, en Italie, ça n'a pas empêché les gouvernements d'y aller, malgré les réactions populaires contre la guerre. Holodomor, 1932-1933, en Ukraine. À l'entrée du parc commémoratif de Kiev, en Ukraine, il y a une sculpture d'une petite fille très mince avec un regard extrêmement triste qui tient plusieurs épis dans ses mains. Derrière elle se trouve le voile du souvenir, un monument au détail qui rappelle les authentiques broderies que l'on peut trouver sur les costumes traditionnels ukrainiens. Ceci est un monument qui marque un événement historique connu sous le nom d'Holodomor, pardon. Mais qu'est-ce que l'Holodomor et quel crime se souvient ce monument en général ? Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Ukraine était un État indépendant. Mais en 1919, l'Union soviétique l'a absorbée dans la communauté des États soviétiques. Les Ukrainiens, qui se considéraient déjà comme un peuple d'Europe centrale, comme les Polonais et non comme les Russes, ont tenté de restaurer l'indépendance de l'Ukraine. Ne voulant pas perdre le contrôle de la grange principale d'Europe, Staline a recouru en 1932 à l'une des formes les plus atroces de terreur contre une nation. Dans le processus de nationalisation, il a pris aux paysans ukrainiens la terre céréalière, mais aussi tous leurs biens, créant ainsi une famine artificielle. L'objectif était d'apprendre aux Ukrainiens à être intelligents, pour qu'ils ne s'opposent plus au Moscou officiel. Ainsi, les personnes qui produisaient le plus de céréales en Europe n'ont eu plus une miette de pain. Le pic de l'Holodomor était au printemps 1933. À ce moment-là, 17 personnes en Ukraine mouraient de faim chaque minute, plus de 1000 par heure et près de 24 500 par jour. Les gens mouraient littéralement de faim dans la rue. Staline a installé la population russe dans les villages ukrainiens vidés. Lors du prochain recensement, il y a eu une grande pénurie de population. Le gouvernement soviétique a donc annulé le recensement, détruit les documents de recensement donc, et les protestants ont été fusillés ou envoyés au Koulag pour cacher complètement cette vérité. Pendant l'Holodomor, entre 1932 et 1933, 7 à 10 millions de personnes ont été tuées par la faim, bien plus que les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dont le gaz toxique là était la faim et Hitler était Staline. L'Holocauste s'appelle l'Holodomor.
Que tu as de beaux champs d'orge giroflés, giroflas. Ton verger de fruits regorge, le bon temps c'est là. Entends-tu ronfler la forge, giroflée, giroflas. Canon le fauchera, le canon le fauchera. Que tu as la maison douce, giroflée, giroflas. L'ombre y dort, la fleur y pousse, le bonheur y viendra. Vois la nuit qui devient rousse, giroflée, giroflas. L'avion la brûlera, l'avion la brûlera. Que tu as de belles filles, giroflées, giroflas. Dans leurs yeux où le ciel brille, l'amour descendra. Sur la plaine on se fusille, giroflées, giroflas. Soldat les violera, le soldat les violera. Que tes filles sont forts et tendres, giroflées, giroflas. C'est plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours on va me les prendre, giroflées, giroflas. Le corbeau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien. On ne verra par toute la terre jamais rien de bien. On tuera pour te faire taire, par derrière comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien.
Le fondeur de canon, Gaston Coutet. Je suis un pauvre travailleur, pas plus méchant que tous les autres. Et je suis peut-être meilleur, ô patron, que beaucoup des vôtres. Mais c'est mon pétier qui veut ça. Ce n'est pas ma faute, en somme, si j'use chaque jour mes bras à préparer la mort des hommes. Pour gagner mon pain, je fonde des canons qui tueront demain. Si la guerre arrive, que voulez-vous, faut bien qu'on vive. Je fais des outils de trépas et des instruments à blessure. Comme un tisserand fait des draps et le cordonnier des chaussures, en fredonnant une chanson où l'on aime toujours sa blonde. Mieux vaut ça qu'être un vagabond qui tend la main à tout le monde. Je fais des canons qui tueront demain. Qui tueront demain si la guerre arrive. Si la guerre arrive, il faut bien vivre. Et puis, je suis aussi de ceux qui partiront pour les frontières, lorsque rougira dans les cieux l'aurore des prochaines guerres. Là-bas, aux canons ennemis, qui seront les vôtres, mes frères, il faudra que j'expose aussi ma poitrine d'homme et de père. Ne va pas me maudire, ô toi, qui dormiras un jour, peut-être, ton dernier somme auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître. Vous, dont les petits grandiront, ne me maudissez pas, ô mère. Moi, je ne fais que des canons. Ce n'est pas moi qui les fais faire.
Le capitalisme, c'est la guerre. Constat tout aussi évident que la guerre a existé avant le capitalisme. Alors, comme on peut le dire, les guerres naissent dans l'esprit des hommes et la paix est avant tout, au même titre que la guerre, un état de conscience. Ainsi, comme le capitalisme, c'est la guerre, la religion, c'est la guerre, le nationalisme, c'est la guerre. Mais une guerre juste peut être décrite comme un os qui venge les torts. Se libérer de l'occupant ou de la colonisation oblige les peuples à la guerre. La guerre est une réalité, mais affirmer que le capitalisme c'est la guerre, est-ce un slogan ou une vérité ? La volonté et l'affirmation de puissance sont un élément constituant de la guerre, mais les mécanismes, les logiques, les finalités, les raisons et des raisons qui mènent à la guerre diffèrent dans l'Antiquité, l'ordre médiéval ou le système interétatique capitaliste. Pour faire simple, dans l'Antiquité, un souverain idolâtré conquiert des terres, biens et esclaves, puis les dieux. Et au Moyen-Âge, Dieu décide de la guerre. La Renaissance marque le passage de la guerre chevaleresque et des condottieri à la levée d'armes de mercenaires, financés par les banques pour les guerres des papes, des rois, des empereurs, des armées qui vont servir aussi à écraser les révoltes paysannes. Non seulement la guerre de Cent Ans, mais aussi la colonisation des Amériques furent financées en grande partie par le capital commercial italien. De la Révolution française naît l'armée-nation, qui annonce la conscription dans le contexte des guerres napoléoniennes, définit ainsi la guerre absolue. Au stade du capitalisme industriel, la conquête coloniale du monde se rationalise avec le passage, au nom de la civilisation et du progrès, de comptoirs pour le commerce et la traite au stade colonial de possession des terres, soumission des peuples, exploitation du sol et du sous-sol, négation de l'autre par la guerre. Le capitalisme du réel est parfaitement bien défini. Une économie qui vise l'accroissement sans fin du capital. Des États-nations dotés d'appareils militaires, policiers et administratifs centralisés. Et une idéologie qui présente l'expansion de ce système comme une mission providentielle dans l'histoire de l'humanité. Des mécanismes logiques qui fondent le jugement de Jaurès que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Réalité tragiquement vérifiée en 1914. Mais le cours présent de l'histoire démontre-t-il la permanence du jugement de Jaurès ? On répète à l'envi que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe occidentale a connu une longue période de paix. C'est oublier que les peuples du tiers-monde ont connu dès la fin de la Seconde Guerre mondiale décolonisation et effet collatéral de la confrontation Est-Ouest, les guerres impérialistes et la violence de la répression. Au tournant des années 90, le monde occidental, avec les États-Unis comme puissance dominante, devenue hégémonique, il ne connaît pas, entre les puissances qui le composent, de contradictions majeures qui soient antagonistes pour la défense de leurs intérêts. Le monde occidental, donc, dispose d'une alliance militaire, l'OTAN. Le capitalisme, tout à son hégémonie, répand alors la galéjade sur la fin de l'histoire. George Bush père, président de la plus grande puissance économique et militaire du monde, proclame « Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. Un nouvel ordre mondial peut voir le jour. Une ère où tous les pays du monde, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, peuvent prospérer et vivre en harmonie. Un monde tout à fait différent de celui que nous avons connu. Un monde où la primauté du droit remplace la loi de la jungle. Un monde où les États reconnaissent la responsabilité commune de garantir la liberté et la justice. Un monde où les forts respectent les droits des plus faibles. Une nouvelle ère moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. » Je vous rappelle que cette longue litanie a été prononcée par George Bush père. Quel est donc ce monde de paix, de liberté, de justice annoncé ainsi ? En fait, un monde de guerre, en raison justement de la nature du capitalisme. Ce que vérifie le capitalisme, c'est la guerre, en relatant au fil de 30 ans d'intervention militaire les objectifs hégémoniques des puissances occidentales lors de la première guerre d'Irak, de la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie, des guerres du Kosovo, de Serbie, de l'intervention militaire en Somalie, du génocide rwandais, des guerres dites justes d'Afghanistan, d'Irak, puis de Libye, du déchirement syrien et de l'impasse sahélien. Des guerres menées sous le couvert du droit d'ingérence humanitaire, puis de la responsabilité de protéger, et qui ont dévasté les pays et mutilé les peuples. Des guerres lors desquelles les dirigeants des grandes puissances ont recours pour les justifier à une propagande de fake news. Des guerres légalisées en manipulant, instrumentalisant l'ONU, bafouant sa mission fondatrice de préserver la paix. Des guerres dont l'OTAN fut à plusieurs reprises le bras armé. Des guerres où, en violation des conventions de Genève, se sont accumulés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ainsi, devenus sans adversaire, les puissances occidentales capitalistes, au lieu d'adopter des politiques de réduction des contradictions entre puissances régionales, des politiques d'apaisement lorsque les tensions religieuses, ethniques, culturelles, historiques déchirent les populations, eh bien, elles ont recouru sous la forme de coalitions internationales ou dans le cadre de l'OTAN à la violence militaire, démontrant ainsi la nature du capitalisme de vouloir toujours et encore conforter son hégémonie, étendre la mondialisation économique néolibérale, s'assurer le contrôle des voies commerciales, imposer sa vision de sa démocratie. Les profondes transformations survenues dans le rapport de force entre puissances historiques ou émergentes, le déplacement du centre de gravité à l'Asie-Pacifique, les menaces d'affrontement entre des puissances régionales puissamment armées, tout cela inscrive aujourd'hui les conflits potentiels non plus dans un cadre de guerre asymétrique, mais dans un retour à des guerres interétatiques de haute intensité. Une réalité dont il faut prendre pleinement conscience dans un monde hégémoniquement capitaliste, hautement concurrentiel, traversé par des crises sociales et économiques, éthiques et religieuses, sanitaires et politiques, et dans lesquelles, cause de tension, la domination occidentale se voit contestée. Le capitalisme, c'est la guerre, est à entendre au présent, et il n'est d'autre force pour s'y opposer que celle des peuples. Un texte sur les mouvements anti-guerre en Russie. C'est d'après Human Rights Watch, il y a eu des centaines de milliers de manifestations contre la guerre en Russie. En tout cas, on a entendu qu'il y en avait eu au moins 15 000 arrestations, ce qui veut dire que les manifestants étaient bien plus nombreux. Et quand on connaît les risques qu'on court à manifester en Russie, ces chiffres sont impressionnants. Manifester contre la guerre dans le pays agresseur est toujours à haut risque et souvent très minoritaire. L'Ukraine et la Russie sont effectivement liées et il existe pas mal de familles russo-ukrainiennes. On sait peu de choses de la composition du mouvement anti-guerre en Russie qui rassemble aussi bien des admirateurs et admiratrices des démocraties occidentales que des habitués des mouvements sociaux et aussi une opposition forte à la guerre avant que les effets meurtriers ne se fassent sentir dans la population. Rappelons qu'il y a eu des mobilisations sociales importantes en Russie dans les années 2000, mais souvent locales, non coordonnées entre elles, lourdement réprimées. En 1989, une union des comités de maires de soldats de Russie se bat, rien de moins, pour le respect des droits de l'homme dans l'armée russe. On peut rire de cette naïveté. Il y aurait à croire que les droits de l'homme puissent être respectés dans le cadre militaire. Mais ces maires de soldats ont donné des sueurs froides à Poutine. Cette union a été créée à l'occasion de la guerre en Afghanistan et devenue plus célèbre au moment de la guerre en Tchétchénie, où des mères sont parties chercher leurs fils. Citons aussi la mobilisation autour du logement à Astrakhan à la fin des années 2000, où les habitants se réunissent pour choisir leur mode de gestion de l'habitat et s'opposer au pouvoir public qui laisse se délabrer les logements. Celle dans la même ville des travailleurs des marchés. Au niveau syndical, les actions de syndicats indépendants comme celui de l'usine Ford de la région de Saint-Pétersbourg, là c'était en 2005-2007, mais ce sont des mouvements contre la corruption et la demande de réformes politiques qui ont prédominé. Le premier de ces mouvements, c'est le gros mouvement social contre la fraude électorale en 2011. Des mouvements qui demandent directement des réformes politiques à Moscou, Saint-Pétersbourg, en 2019, et qui étaient clairement influencés par une vision occidentale du pouvoir démocratique. Ces mêmes composantes semblaient être présentes dans les mobilisations de 2021 contre l'arrestation du libéral et opposant Navalny. Plus intéressantes furent les mobilisations à l'extrême est du pays, dans la ville de Khabarovsk, à la frontière chinoise. Le gouverneur local, populaire, car moins corrompu que la moyenne, s'est fait arrêter par le pouvoir poutinien sur un montage policier grossier. Il n'était pas membre de Russie Unie et donc considéré de facto comme un ennemi par le pouvoir. La mobilisation fut massive avec des cortèges de plusieurs dizaines de milliers de manifestants et manifestantes pendant des mois. Une première dans cette ville ouvrière, à voir néanmoins le positionnement de toutes ces personnes mobilisées sur la guerre après le considérable travail de propagande à l'œuvre en Russie. La Russie est une dictature dans laquelle Poutine jouit d'une popularité certaine, mais il sait qu'il doit gagner rapidement. La situation économique va se dégrader, le nombre de morts vont finir par être connu, et le colosse a peut-être des pieds d'argile. Nouveau rapport sur le refoulement généralisé des migrants par l'Union européenne. Ce rapport vient du Conseil de l'Europe et a été publié début avril. C'est une organisation internationale indépendante de l'Union européenne qui rassemble 46 États et dont fait partie la Cour européenne des droits de l'homme. Elle souligne les violations des droits humains aux frontières communautaires. 13 États sont particulièrement critiqués pour le renvoi direct de personnes sans possibilité de demander l'asile. Ces pays sont la Croatie, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Grèce, Chypre, la Turquie, la Bulgarie ou encore la France et l'Espagne. En France, c'est la situation à la frontière italienne qui est brocardée notamment à Menton et à Montgenèvre. Ça, c'est dans la vallée de la Roya, à côté de... Voilà. À l'été et automne 2020, il y a eu entre 50 et 150 procédures de refoulement par jour, appelées aussi « pushback ». En Grèce, ce sont des renvois automatiques vers la Turquie, tandis que les pays d'Europe de l'Est ont fait des renvois l'été dernier pendant la crise migratoire avec la Biélorussie. Le tout avec violence, et quelques pays essaient de légaliser ces renvois, comme la Hongrie ou la France. Le rapport souligne la contradiction par rapport à l'accueil chaleureux des réfugiés ukrainiens. Le rapport exige un accès individuel et garanti à l'asile pour tout le monde, ainsi que les États mettent en place des règles de conduite et des procédures standardisées claires et obligatoires pour les autorités en charge du contrôle aux frontières, afin de traiter les migrants de manière conforme aux droits humains. Eh bien, je vais conclure. C'était Parole d'Expo, c'est l'expo d'Audradec et nous sommes le premier vendredi du mois de mai. Tout le mois de mai, installation sur les murs de la radio de textes anti-guerre. Et nous avons aussi fait l'action 115. Alors numéro 1, c'était tout le mois d'avril. Maintenant, c'est l'action bis. Et vous étiez en direct du vernissage. Donc le vernissage a toujours lieu. Vous pouvez venir dans les locaux de la radio, 40 rue Alfred Duméril, ce vendredi 5 mai. 5 mai, oui, c'est ça.
6 mai.
Et on vous invite à venir régulièrement dans la semaine prendre le temps de lire les textes qui sont affichés.
On remercie Gilbert pour son ambiance de fond.
Ça, c'est Gilbert qui nous a fait un montage sonore. Bernard pour les lectures des textes, des poèmes de René Char. Fabien pour la technique et la lecture, et moi-même je me remercie bien.
Merci
et je
Chantal.
Vous dis à la prochaine, au prochain vernissage qui sera début juin. Vous écoutez Canal Sud 92.2.
Nous étions au nombre de 1000, venus d'Italie et d'ailleurs. Garibaldi dans la Sicile nous entraînait en tirailleurs. J'étais un jour seul dans la plaine, quand je trouve en face de moi un soldat de 20 ans à peine, qui portait les couleurs du roi. Je vois son fusil se rabattre, c'était son droit, j'arme le mien. Il fait 4 pas, j'en fais 4. Il vise mal, je vise bien. Ah, que maudite soit la guerre qui fait faire de ses couleurs. Verse dans mon verre le vin de Marsala. Il fait demi-tour sur lui-même. Pourquoi diable m'a-t-il